Bonjour à tous et bienvenue 10h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
La trêve est à nouveau malmenée au Liban. Ses autorités font état de 4 morts dans des frappes israéliennes dans le sud du pays. Israël dit avoir lancé des raids après une attaque du Hezbollah. Les émissaires de Donald Trump sont attendus en Ukraine, porteurs d'une proposition pour mettre fin à la guerre. Rien n'a encore filtré des 3 heures d'entretien qu'ils ont eu hier au Kremlin avec Vladimir Poutine. Les opérations de vote sont en cours en Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne. L'extrême droite part favorite aux élections régionales dans ce land de l'ex-RDA. Dans ce journal aussi, à la recherche d'une taupe dans ses rangs, le Pentagone ne recule devant rien. De hauts gradés américains sont même passés au détecteur de mensonges. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont attendus ce dimanche à Kiev après avoir été reçus hier à Moscou. 3 heures d'entretien hier soir avec Vladimir Poutine dont rien n'a filtré sur le fond. Les émissaires sont porteurs, selon Donald Trump, d'une proposition visant à mettre fin au conflit en Ukraine. À Moscou, pour RFI, Jean-Didier Revoin.
On ne connaît pas le détail précis des discussions qui se sont déroulées hier soir au Kremlin. Yuri Ushakov s'est tout au plus laissé aller à dire que Steve Witkoff et Jared Kushner avaient formulé un certain nombre de considérations sur les moyens possibles de règlement du conflit ukrainien. Preuve pour le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine que les émissaires américains avaient sérieusement préparé ce déplacement, le 8e du genre. Aucune indication n'a été donnée quant à l'accueil réservé à ces nouvelles propositions américaines, si ce n'est la formule traditionnelle qui tient en une phrase. Notre président a confirmé sa détermination à continuer de travailler avec les Américains pour trouver des solutions politiques et diplomatiques. Mais de source russe, les négociations qui ont eu lieu ne se sont pas limitées à un échange de vues sur la résolution de la crise ukrainienne. Les questions économiques, les éventuels grands projets russo-américains mutuellement bénéfiques ont été discutés en détail. La preuve, s'il en fallait encore, qu'une sortie du conflit ukrainien ne se fera pas sans que Moscou ne bénéficie d'importantes contreparties sur le plan économique. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
De sources libanaises, 4 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées, 20 autres blessées ce matin, dans des frappes de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Israël explique avoir riposté une attaque de drone du Hezbollah contre ses soldats. Un ordre d'évacuation avait été émis dans les zones situées près d'un immeuble du village d'Arab Salim, bâtiment utilisé par le Hezbollah, selon l'État hébreu. On y revient plus en détail dans le journal de 13h avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalife. L'Iran annonce avoir riposté aux frappes des États-Unis contre 3 de ses pétroliers dans le Golfe. Un drone naval américain a été attaqué près du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution ont aussi revendiqué des attaques de 3 pétroliers dans ce détroit et de 3 navires américains dans d'autres secteurs. Ils ont mis en garde les autres bateaux contre toute tentative de transit via des routes qu'ils n'approuvent pas. Cette guerre contre l'Iran affecte les stocks de munitions aux États-Unis. Des rumeurs sur une pénurie ont même fuité cet été. Depuis, le Pentagone, le ministère de la Défense, cherche la taupe. Il a même passé des hauts responsables militaires au détecteur de mensonges. Du jamais vu à un tel niveau de hiérarchie, Gwendal Lavina.
Au total, une cinquantaine de militaires, dont certains des plus hauts responsables de l'armée américaine, ont dû se soumettre aux tests. Selon le New York Times, qui révèle l'affaire, il s'agit de membres de l'état-major interarmé ainsi que du personnel de support du Pentagone. L'objectif était de déterminer si l'un d'entre eux a sciemment divulgué des informations à la presse sur le rationnement de certains missiles à cause d'une pénurie suite à la guerre en Iran, ce que conteste l'administration Trump. Si de tels tests sont réguliers pour le renouvellement d'habilitation de sécurité, par exemple, c'est la première fois qu'ils sont utilisés à cette fin aussi largement. Mark Esper, ancien secrétaire à la Défense sur Bloomberg.
Je n'ai jamais vu une chose pareille, ça me semble sans précédent par sa taille. Mais aucune administration n'aime les fuites, et celle-ci en particulier. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant des informations classifiées sur les munitions. Mais elles sont en réalité publiées depuis longtemps par des think tanks, des journalistes et même d'anciens membres du Pentagone. Donc on verra ce que ça donne.
Selon la chaîne CBS, personne n'a échoué au détecteur de mensonges. De son côté, le Pentagone a refusé de commenter la procédure, tout en affirmant prendre au sérieux les fuites et la sécurisation d'informations classifiées. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Saxe-Anhalt dans l'est de l'Allemagne. Ils le resteront jusqu'à 18h, heure locale, 16h, TU. L'extrême droite, emmenée par Ulrich Siegmund, est en passe de remporter les élections régionales dans cet état de l'ex-RDA, ce qui serait une première en Allemagne depuis 1945. L'alternative pour l'Allemagne est un parti anti-immigrant, russophile et favorable à Donald Trump. Il n'est toutefois pas assuré d'obtenir la majorité absolue qui lui permettrait de diriger cette région de plus de 2 millions d'habitants. Les premières estimations sont attendues peu après la fermeture des bureaux de vote. Le Népal observera demain lundi un jour de deuil national. En attendant, les recherches se poursuivent 11 jours après la crue dévastatrice. Parmi les personnes encore portées manquantes figurent des centaines de touristes et de pèlerins étrangers. Il y a aussi tous ceux qui travaillaient dans des centrales électriques et des chantiers de barrages lors du désastre, soit environ 900 personnes. Quant au bilan provisoire de la catastrophe, il fait état toujours de plus de 1300 morts et de plus près de 5000 disparus. Direction maintenant le Bangladesh, où sévit une grave épidémie de rougeole, l'une des plus meurtrières jamais enregistrées dans le pays. Près d'un millier d'enfants ont déjà succombé et en 6 mois, le nombre de contaminations dépasse les 180 000 cas. Écoutez les précisions de Farouk Rahman, le directeur adjoint du Croissant Rouge au Bangladesh.
La plupart des enfants ont moins de 5 ans. Ils viennent souvent de zones très rurales d'un peu partout dans le Bangladesh avant d'être admis à l'hôpital. Beaucoup arrivent de familles défavorisées, ce qui signifie que des enfants arrivent à l'hôpital très affaiblis, en état de malnutrition. L'autre problème concerne leur hospitalisation. Le temps du traitement représente un manque à gagner pour les parents. Tout cela engendre des frais et ils ont du mal à se procurer de l'argent. Cette épidémie de rougeole s'explique enfin par l'agitation politique au Bangladesh, ce qui a perturbé des campagnes de vaccination. Certaines ont dû être interrompues et il se peut que des régions n'aient pas assez pris la situation au sérieux. La sensibilisation n'a pas été efficace. C'est pour cette raison que dans certains endroits, des gens n'ont pas été vaccinés.
Le directeur adjoint du Croissant Rouge au Bangladesh, propos recueillis par Nicolas Feldman. Le trafic aérien est actuellement interrompu dans les principaux aéroports d'Indonésie, dont l'aéroport international de Jakarta. La raison est l'entrée en éruption d'un volcan situé à plus de 150 km de là, le volcan Anak Krakatoa. Des centaines de vols et des milliers de passagers ont déjà été affectés. Le Groenland reçoit la visite d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle est à Nuuk, la capitale, pour une visite de 2 jours visant à réaffirmer son soutien au territoire autonome danois convoité par Donald Trump. Une déclaration commune sera signée demain entre l'Union européenne et le Groenland. Et maintenant, une pub qui déclenche un tollé en Afrique du Sud. Le pays célèbre les 70 ans de la marche des femmes, une grande manifestation qui avait défié le régime d'apartheid. À cette occasion, la marque de whisky Glenlivet, propriétaire du groupe Pernod Ricard, a voulu marquer le coup, mais son clip publicitaire a très vite suscité la polémique. Claire Bargelès.
La vidéo filmée en noir et blanc montre une actrice sud-africaine en train de trinquer devant les portraits des figures qui ont mené la marche de 1956. La voix de Winnie Mandela vient boucler la séquence. Cette utilisation commerciale de l'histoire passe mal, alors que l'événement reste un souvenir douloureux, un rappel de la condition des femmes sous l'apartheid et de leur combat. Un faux pas d'autant plus problématique qu'à l'époque, les populations noires et métisses étaient soumises à de sévères restrictions raciales sur l'alcool, dont la vente était utilisée comme un outil de contrôle d'étonship par le régime ségrégationniste. Sophie de Brune, la dernière personnalité toujours en vie, a indiqué n'avoir jamais donné son autorisation pour l'utilisation de son image. La marque de whisky a depuis présenté ses excuses et retiré la vidéo, mais l'ensemble des familles concernées souhaitent obtenir davantage d'explications sur la façon dont cette campagne publicitaire a été conçue. Le parti de l'ANC a lui aussi rappelé que l'on parle là de femmes courageuses et non pas de simples symboles pour le marketing. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Allez, sport pour finir en rugby. Match nul le 28-28 entre l'Argentine et l'Australie. La belle série australienne de 4 victoires d'affilée a pris fin à Mendoza où les Wallabies ont été tenus en échec par les Argentins. En France, Pau a frappé un grand coup dès la première journée du top 14. La section paloise l'a emporté sur la pelouse de Montpellier 27-19. De son côté, Bègles-Bordeaux a écrasé le Racing 92 64-5. L'UBB où l'ailier star Louis Biel-Biarré prolonge jusqu'en 2029. Enfin, le tennis à l'US Open, plus qu'un Français en lice, c'est Arthur Géa, vainqueur au troisième tour de l'Américain Deng, victoire en 5-7. Il est en huitième de finale, de même qu'Alexander Zverev, tête de série numéro 1. Voilà, tout à l'heure, 13h pour un nouveau journal dans l'immédiat, Religion du Monde, le rendez-vous de Véronique Guémard.
Tout à l'heure, retrouvez Yasmine.
Un petit peu d'air ne me fera pas mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Jusqu'aux étoiles. La vie en bleu comme un chameau. La vie en rose comme tes trouvailles. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air.
Fragile et écrasé, je suis comme un œuf dans la mêlée, qu'aurait bronzé comme un journal. J'ai comme la lune un visage pâle.
Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Tomber les murs, lever les voiles.
La vie en bleu comme un bateau. Un petit peu d'air.
peu d'air ne fera pas du mal.
Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières des frontières. Nos vies, nos sentiments, notre quotidien risquent de devenir de moins en moins concrets et de plus en plus virtuels.
Principe actif, le mix des cultures.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Vous écoutez Principe actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Oh.
Sur le DAB+. Principe actif, le mix des cultures.
It's all relative, right? One thought, many thinkers, one flame, many cinders, one view, many windows. Love in a time without sacrifice. We want what we want, and what's more, we deserve it. We run around panicking, nervous, thinking, oh, could this be the one, man? They're perfect. Couple years later, you're chained to the circuit, breaking them down as if you're determined to waste what you found. But what's true about you? Is it the things that you claim to be true, or is it deeper, lurking in places that you don't dare to journey to? Faced with a new way of seeing it, are you the type to accept, or the type to clench fists and reject? Whose truth even counts? Is it the person who doubts what a person proclaims they're about, whose version is perfect? Is there a truth that exists outside of perception? This is the question. It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man's flash of lightning ripping through the air is another's passing glare. It's hardly there. It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man's flash of lightning ripping through the air is another's passing glare. Hardly there. Two people. One thinks two's deceitful.
It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man's flash of lightning ripping through the air is another's passing glare. It's hardly there. It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man's flash of lightning ripping through the air is another's passing glare. Hardly there.
You can extrapolate that.
In the back of the cab, the girls look at each other like, what the fuck was that?
Where is that in the club?
What? I don't know, says the driver. I never like rap. Well, can't you put it on magic then or something like that?
In a little city, Kingston, Jamaica. Kingston, Jamaica. Bambili, Bapa, and no Jessamy. A Jessan, Ara, Gessamy. A Gessita, the very, very best in the West. A no Jessamy. A Jessan, Ara, Gessamy. A Gessita, the very, very best in the West. And when you check pan the corner, I tell you, say, fi, ask the Mr. Peter. And where you say, ask the Mr. Peter. Mr. Peter slide that a condom fit burger. I come in now, eh? I come in.